Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Bienvenue dans les vraies voix, des vraies voix qui sont en mode Stromae aujourd'hui, puisque le chanteur belge fête ses 36 ans. Et nos vraies voix du jour ont toutes quelque chose de chanson de Stromae. Philippe Bilger est fan d'opéra et il a beaucoup de followers sur Twitter. Cette version revue et corrigée de Carmen lui va donc parfaitement bien.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. D'abord on s'affilie, ensuite on se follow. On en devient fêlé et on finit solo.
Regarde à toi.
Et à tous ceux qui vous like, les sourires en plastique sont souvent des coups d'hashtag.
Regarde à toi.
Vous prenez garde à vous sur Twitter, Philippe Bilger?
J'essaye, mais en général, je ne me défends pas. Je réagis lorsque je suis attaqué, mais je ne vous remercie pas, mon cher Philippe, pour le fêlé. Tout de même, ça m'inquiète.
Ah, c'était pas moi, c'était Stromae qui le chantait.
Ouais.
Comme toute jeune maman qui a un bambin qui se réveille la nuit pour demander à manger, Adrienne Bretons ne peut pas s'empêcher de chanter cette chanson de Stromae lorsque le cri qui vous fait sortir du lit, pardon, se fait entendre. Vous le chantez souvent à 4h du matin?
Ah non, mais heureusement le papa est là, d'ailleurs c'est ce qui me permet d'être parmi vous aujourd'hui.
Ah ben on le salue.
Ouais, on salue les papas modernes
et on les remercie. Et on salue le petit bambin qui a 5 semaines.
Ouais, c'est ça.
Je suis sûr qu'il écoute les vraies voix.
Oui, bien sûr, avec son père en ce moment.
Et bon, salut son papa aussi. Tous ses clients disent qu'il y a un adjectif qui qualifie Philippe Deveul par-dessus tout. Et les VV pensent également que ce qualificatif dans cette chanson de Stromae lui va très bien.
Formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable.
Ça vous va, Philippe Deveul aussi?
Ah bah moi ça me va, mais vous savez, comme on dit dans la profession, le pire ennemi de l'avocat, c'est le client.
Ah oui. C'est pas la partie adverse.
Voilà.
Et une équipe formidable, Jean-Marie Bordry au roi de l'info, au clin d'œil aux réseaux sociaux, Jamel à la réalisation et Léa au standard. Nos trois débats du jour à 17h30. Je pense que je vais gagner en 2022. Marine Le Pen a-t-elle raison d'y croire? Notre second débat, éducateur agressé par des jeunes dans la Loire, faut-il un encadrement militaire pour les jeunes violents? Et enfin, notre grand débat à 18h30, maintien du vaccin AstraZeneca, pas de confinement, le gouvernement prend-il les bonnes décisions? Vous voulez réagir, vous connaissez le principe, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. Comment vont les vraies voix en ce vendredi 12 mars? Je tiens, avec un jour de retard, à souhaiter un excellent anniversaire à Philippe Deveul, puisqu'il a pris un an hier.
Merci.
Très bon anniversaire.
Merci Philippe. Voilà. Je suis au début de la fin de qui me reste à dire.
Vous allez dire, c'est le même âge que Stromae?
Non. Il faut mettre beaucoup de TVA après Stromae.
C'est le cas, merci, c'est gentil.
C'est 38 ans hors taxe, Stromae, vous voyez ce que je veux dire. 36, pardon. Allez, vous êtes prêts pour un tour de table de l'actualité? Eh bien, c'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Nos gens sont terriblement pauvres et...
C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches.
Ça, c'est me prendre par les sentiments.
Ah bah c'est justement pour vous, Philippe Deveul. Ouais. Vous voulez parler de la montée de la précarité en France et vous dites que personne n'en parle. Enfin, vous allez en parler. Et les vraies voix vont en parler.
Si, il y a des filets sur la montée de la précarité en France qui est la conjonction de plusieurs choses. Et notamment, il y a un rapport du Secours catholique à Nice où il y a à peu près 360 personnes qui vivent dans la rue et qui, parmi celles-là, la plupart d'entre elles avaient un toit il y a un an. Donc c'est un fait nouveau. Alors il y a eu la tempête Alex, il y a eu le confinement, il y a eu la crise sanitaire. Mais ça, c'est un exemple sur une ville quand même qui est réputée pour être assez riche. Et c'est un phénomène qui s'étend sur le territoire. Alors on peut se poser des questions parce que quand même en France, il y a une forme de maillage pour protéger les gens. Mais la misère est tellement forte que les gens ne peuvent plus tenir et qu'ils se retrouvent dans la rue parce qu'ils perdent leur emploi, ils ne peuvent plus payer un loyer. Et c'est une catastrophe qui va être endémique, me semble-t-il, à la suite de ce qui va se passer sur cette crise sanitaire.
Et quand on va recevoir les factures, du quoi qu'il en coûte, c'est ce que vous voulez dire?
Ah bah ça, les factures, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est l'impact direct de cette situation sur les gens qui ne peuvent plus tenir.
Adrienne Breton, ouais,
je réagis. Je partage cette inquiétude sur la précarité, notamment la précarité alimentaire. Je trouve que les chiffres sont hallucinants. Il y avait 3 millions de personnes qui bénéficiaient de l'aide pour l'alimentation au moment de la crise de 2008. Aujourd'hui, on serait à peu près à 8 millions. Donc, c'est quand même une explosion de la précarité alimentaire en France. Donc, je partage cette inquiétude sur la sortie de crise avec notamment tous les indépendants, les jeunes qui risquent de basculer là dans les prochains mois dans la pauvreté.
Philippe Bilger.
Mais mon cher Philippe, que dire de plus après Adrienne et Philippe Deveul ? J'aurais l'air du cynique si je venais contredire ce tableau parfaitement dépressif. C'est vrai que la précarité, depuis la Covid-19, s'est aggravée et elle existait déjà avant. Et bien sûr, je fais partie de ceux qui honteusement la déplorent abstraitement, mais ne font rigoureusement rien à titre personnel pour la pallier.
Mais je voudrais vous poser une question. Vous voulez réagir, Adrienne ?
Non, mais justement sur le à titre personnel.
Vous avez levé le doigt de manière très.
Exactement. Non, parce que effectivement sur le, on peut tous agir à titre individuel. Effectivement, il y avait les Restos du Cœur qui faisaient leurs collègues, donc on peut tous donner une boîte de riz quand on va faire nos courses. Mais la question, c'est quand même la question de la solidarité nationale. Et on a un gouvernement qui a quand même fait un revirement en termes économiques en cours de quinquennat à cause de la crise. Et tant mieux. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose qu'il fasse ce revirement. Mais on a eu un début de quinquennat très libéral avec la suppression de l'ISF, etc. Aujourd'hui, on essaye de recréer maintenant un certain nombre de protections sociales, mais qui avaient été détruites en début de quinquennat. Donc là, il va falloir se poser la question, si on veut créer une vraie solidarité qui soit nationale pour sortir toutes ces personnes de la précarité, comment on le fait ? Et le geste individuel ne suffira pas.
Mais je voudrais vous poser une question à tous les trois. On est le pays qui est le plus taxé ou presque, qui distribue le plus d'aides sociales. Je crois que c'est 95 milliards d'euros d'aides sociales par an. Ouais. Comment expliquer qu'on ait 9 millions de pauvres, une précarité qui explose, en distribuant 95 milliards d'aides sociales ?
Parce qu'il y a beaucoup de trous ?
C'est l'absurdité du système français. On le voit dans l'administration, on le voit dans la gestion de la crise, on le voit comment bon, on manque de vaccins, on ne peut pas vacciner. C'est l'administration qui bloque le système parce que pour la redistribution des richesses, je suis d'accord plus ou moins avec vous. Il y a eu le retrait de l'ISF qui concerne les capitaux. Mais il ne faut pas oublier que les propriétaires qui sont de la classe moyenne, qui ont leur bien mobilier, sont taxés de l'IFRI.
Oui,
et ils n'ont pas forcément les moyens.
C'est exactement.
C'est les très riches qui ont
bénéficié de la suppression de l'ISF.
Qui sont exonérés de taxes. C'est même, vous voyez, c'est-à-dire que le système est profondément injuste.
Ah ouais,
sans rentrer dans la doctrine, une doctrine socialiste. Parce que je crois qu'on fait aussi une surdose de socialisme. Et le fait qu'il y ait une précarité, c'est parce que justement, on a voulu offrir beaucoup, mais mal, qu'en fin de compte, on se retrouve avec des anomalies comme aujourd'hui.
Et surtout, il y a beaucoup de trous, parce qu'il y a la protection quand même des indépendants qui est plus qu'imparfaite. On le voit là maintenant pendant la crise.
Et il y a les jeunes. Il y avait un reportage hier soir dans Envoyé spécial sur les petits commerçants dans le centre-ville de Blois. C'était absolument terrible de voir ceux qui mettaient la clé sous la porte, etc. Ah oui.
Alors, ils sont soutenus quand même aujourd'hui quand même par les aides du gouvernement. Il y a le prêt garanti, il y a le chômage partiel. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a rien. Mais tout ça, c'est des dispositifs spécifiques à la crise. En dehors de cela, il n'y a pas de protection très forte des indépendants en France. Les jeunes, c'est pareil. On a le RSA, mais le RSA, c'est à partir de 25 ans. Les aides au logement, elles ont été fortement réduites par le gouvernement il y a quelques années. Les bourses, elles ont été aussi réduites il y a quelques temps. Donc, on a un système qui dépense beaucoup, mais malheureusement, il y a aussi des trous très importants. Et c'est ces gens-là qu'on voit aujourd'hui dans la queue pour l'aide alimentaire.
Philippe Bilger.
Comment dire, je trouve un petit peu démagogique l'idée qu'on paye énormément et que, au regard de tout ce qu'on paye, la France devrait être dans un état merveilleux. Ça me semble sous-estimer l'énorme handicap d'un pays qui a connu des misères, des détresses, qui en connaît d'autres, et c'est très difficile à gérer. On ne peut pas dire qu'il y ait une coïncidence absolue entre tout ce qu'on paye et la réussite d'un pays. Il restera toujours, Adrienne le dit, mais à sa manière, il restera toujours des trous, des lacunes, des béances. Et donc, je crois que là, c'est un peu vous, Philippe David, qui disait cela assez volontiers. Ça, c'est une sorte de rêve d'utopie, de coïncidence impossible entre ce qu'on paye et ce qu'on trouve.
Bah, généralement, plus on paye, plus on a de prestations. Hein.
Bah, oui, mais il faut pas laisser croire qu'on aura un pays paradisiaque parce qu'on paye et qu'il y a forcément une responsabilité du pouvoir.
Et j'ai jamais dit ça. Philippe Deveul et Adrien Breton.
Je pense qu'en fin de compte, Philippe, ceux qui payent le plus, ce sont les honnêtes gens. Ce sont qui sont solvables, qui ont des impôts à payer. Les gens qui ont un salaire qu'on taxe avec des amendes de 135 euros, etc. Il y a une partition dans le territoire et il y a un véritable scandale sur l'égalité. L'égalité des gens qui sont impliqués dans la vie normale du pays et ceux qui ne le sont pas. Et moi, je pense que quand on reçoit des impôts, il faudrait peut-être faire une déduction. Alors, j'étais un peu provocateur, mais il faudrait peut-être faire une déduction des zones de non-droit par rapport à l'intégrité du territoire. Exclure ces parties du territoire qui ne répondent plus à l'intégrité du national. Et puis, voilà. Donc, il y a une véritable inégalité à tous les étages.
Adrienne Breton.
Et puis, il faut rappeler aussi pourquoi on paye des impôts, parce qu'on a tendance à oublier ce dont on bénéficie en France et qui est gratuit, notamment la santé en cette période de Covid. Le fait de pouvoir être hospitalisé gratuitement en France, on ne se rend pas compte à quel point c'est une chance. Aux États-Unis, il y en a beaucoup qui sortent, alors guéris du Covid de l'hôpital, mais quasiment endettés à vie. Donc, il faut aussi se souvenir qu'on paye pour cette protection sociale-là.
Et je vais vous dire une chose, en ce moment, en période de Covid, on peut faire autant de tests PCR antigéniques qu'on veut, c'est remboursé. Alors, je connais quelqu'un qui est allé passer quelques jours en Espagne, il a dû payer 155 euros. Le test qu'il a fait là-bas, multiplié par deux, ça fait quand même 310 euros, une paille. Vous êtes bien dans les vraies voies avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Adrienne Breton. On va continuer à en débattre dans quelques instants. Je vous donne notre débat de 17h30. Je pense que je vais gagner en 2022. Marine Le Pen a-t-elle raison d'y croire? Vous pouvez d'ores et déjà réagir sur Twitter et au 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Adrienne Breton. Et Adrienne Breton veut nous parler de l'union de la gauche dans les Hauts-de-France. Cette chanson s'imposait donc.
Oui, tout à fait. Bah, c'est une...
Vous pouvez la chanter
Le refrain, je pense, mais pas les... Ouais, malheureusement, okay, ouais. Oui. Ah, comme quoi, hein, tout se perd à gauche. Il faut qu'on revoie nos classiques.
Et donc, il y a l'union de la gauche dans
Oui, l'union de la gauche dans les Hauts-de-France. Donc, c'est quand même une petite lueur d'espoir pour les régionales. On a une union entre les écologistes, le PS et les insoumis. Et donc une lueur d'espoir pour les électeurs de gauche, mais pas que. C'est aussi une lueur d'espoir, je pense, pour le débat démocratique en France. On va enfin pouvoir avoir une voix à gauche qui soit un peu audible. On voit également que le péril Le Pen, dont on parlera...
À 17h30.
Exactement, conduit les forces de gauche à s'unir pour essayer de porter un message et pour essayer de gagner. Donc on verra si ça fait école, notamment en région PACA. Donc voilà, je voulais quand même saluer cette bonne nouvelle pour une partie de la gauche et pour le débat démocratique.
Alors ça réunit, si je ne m'abuse, le PS, Génération, Europe Écologie Les Verts et la France Insoumise.
Tout à fait. Donc on a fait quand même la réunion la plus large possible à gauche. On verra si en 2022 on arrive à avoir la même chose, ça serait pas mal.
Je sens, Philippe Bilger, que ça vous fait rêver et que vous regrettez de ne pas être électeur dans les Hauts-de-France.
Non, mais en tout cas, j'ai déjà dit, et si j'ose me mettre dans les pas d'Adrienne, je l'avais dit il y a 48 heures que c'était tout de même une configuration très étonnante qui pouvait peut-être, pour la gauche, représenter un laboratoire pour la présidentielle. Mais j'aimerais, c'est une question que je pose à Adrienne, est-ce que la force et la faiblesse de cette union ne vient pas du fait que, en effet, c'est une personnalité exceptionnelle qui a réussi l'union, totalement singulière et atypique dans le domaine écologique, et que peut-être ce sera plus difficile à mettre en œuvre sur le plan national.
Philippe Deveul, c'est le retour de la gauche plurielle 25 ans après?
Moi, je pense que, je ne veux pas décevoir Adrienne, mais je crois qu'il y a une véritable rupture dans la gauche radicale ou l'extrême gauche et la gauche hugolienne. Je le ressens, c'est mon analyse, parce que si vous êtes attiré, ça dépend qui va attirer qui, parce que si vous êtes happé par l'extrême gauche, vous allez vous dénaturer et vous serez minoritaire. Donc à mon avis, cette union me semble un peu compromise.
Non, mais je pense comme vous qu'il n'y a pas de place au second tour d'une présidentielle pour une gauche très à gauche et non hugolienne. Donc, moi,
je vous coupe, c'était pourtant Mélenchon qui était le plus haut à gauche à la dernière présidentielle.
Oui, tout à fait.
Si on compte que Macron n'était pas de gauche.
Mais il n'est pas qualifié pour le second tour.
Oui.
Donc c'est ce que je dis. Je pense qu'il n'y a pas de place au second tour pour cette gauche-là. Et l'union dans les Hauts-de-France est une union derrière effectivement Karima Delli qui est la candidate écologiste. Mais le PS a fortement œuvré, notamment Patrick Kanner dans le Nord. Donc on verra ensuite dans les autres régions si on peut avoir une alliance derrière un candidat socialiste. Donc pourquoi pas un vert derrière un candidat socialiste dans une autre région pour avoir quelque chose d'un peu équilibré.
Philippe Bilger,
si le rêve politique d'Adrienne se réalisait en 2022, on pourrait, avec une union de la gauche, et c'est la seule manière pour elle de pouvoir, sinon l'emporter, du moins être au second tour, on pourrait se retrouver dans cette configuration apparemment surprenante d'un Emmanuel Macron qui ne serait pas qualifié pour le second tour.
Vous y croyez, vous, Philippe Deveul, Emmanuel Macron, pas qualifié pour le second tour au bénéfice d'un candidat, on va dire, de gauche plurielle ?
Moi, je pense qu'il ne faut rien écarter comme option ou comme hypothèse. Oui, parce qu'en fin de compte, Emmanuel Macron est de plus en plus impopulaire et je pense qu'on voit bien l'incapacité de cet homme-là à représenter une véritable autorité d'un président, quoi, dans un pays comme la France, c'est surtout un président de forme, mais pas de fond. Il est possible qu'il soit pas présent au deuxième tour. Alors, on aura un autre schéma. Et je pense que ce sera peut-être pas un schéma très facile.
Justement, Adrienne Breton, cette union dans les Hauts-de-France, à l'époque, c'était les mines, c'était la sidérurgie, c'était les ouvriers, ça votait massivement socialiste et communiste. Aujourd'hui, ça vote massivement Rassemblement National. Comment expliquer ça ? Parce que la gauche a abandonné le peuple ? Comme la droite a abandonné la nation ?
Ça doit clairement interroger la gauche sur ce qu'elle porte, sur la façon dont elle peut convaincre cet électorat-là et ce qu'elle peut apporter à cet électorat-là. Donc, il y a un travail qui est fait à gauche. Moi, je suis dans un mouvement de gauche, effectivement, qui travaille depuis juillet là-dessus. On a un vrai sujet de refondation sur nos idées. Donc, j'espère que cette union de la gauche dans le Nord pourra être un peu plus convaincante.
Philippe Deveul veut réagir ou Philippe Bilger ? C'est vrai, Philippe Bilger, à l'époque, c'était les terres ouvrières. Hier, les terres communistes, Thorez était élu dans le Nord, etc. Ouais. Comment expliquer ce basculement alors que, d'ailleurs, les ouvriers là-bas, il y en a de moins en moins parce que les mines ont totalement fermé. La dernière a fermé, ça a fait 30 ans en décembre. La sidérurgie, elle a beaucoup souffert et tutti quanti. Le textile, n'en parlons pas, il a définitivement fermé aussi.
Mais parce qu'à une certaine époque, le Parti communiste, et je le dis sans aucune ironie, même si j'ai toujours été un anticommuniste primaire, représentait non seulement l'espoir, mais une sorte de structuration de la société dans ces domaines, et il apportait des choses positives. Et ce peuple qui, à l'époque, ne se sentait pas abandonné parce qu'il avait une fraternité qui le structurait, aujourd'hui, son désespoir va plutôt à l'extrême droite. Alors, c'est presque implacable comme logique.
Philippe Deveul.
Comme disait le général de Gaulle, la France, c'est pas la gauche, la France. C'est pas la droite non plus, c'est un ensemble. Et je pense que depuis que la gauche est arrivée au pouvoir en 80 avec François Mitterrand, il y a eu ce basculement, cette bascule en 83 où Mitterrand est allé vers...
Le tournant de la rigueur, je le rappelle.
Le tournant de la rigueur où il est allé vers l'Europe, vers le libéralisme. Et au fur et à mesure, la gauche a abandonné les travailleurs. Et aujourd'hui, je pense que ces travaux, pour vous, vont être très difficiles, puisque la gauche a été très souvent au pouvoir depuis justement François Mitterrand en 81, avec les cohabitations, etc. Et puis à chaque fois qu'il y a eu un candidat de droite, il a toujours fait une politique de gauche, et que la gauche a oublié la classe ouvrière ou les travailleurs, et qu'elle s'en souvient. Et c'est pour ça que le vote de cette catégorie de la société va plutôt vers le Rassemblement National.
En 30 secondes.
Ouais, vous dites que ça va être difficile, oui et non. Je pense qu'il y a un certain nombre de dogmes qu'il faut être capable aujourd'hui de remettre en cause, notamment sur les sujets économiques, où je pense que la gauche n'a pas suffisamment osé affirmer qu'il fallait protéger notre industrie, qu'il fallait protéger nos emplois. Et là-dessus, je pense que la gauche a besoin de faire un revirement, effectivement.
Vous êtes bien sur Sud Radio. Non, il n'en a plus le temps. Il est 17h26. Dans quelques instants, notre premier débat. Je pense que je vais gagner gagner en 2022. Marine Le Pen a-t-elle raison d'y croire? Eh bien, vous êtes 58% à dire oui. Vous voulez réagir? Vous connaissez le numéro, le 0826-300-300 et les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Qui sera le prochain président de la République? Voilà donc la grande question.
Je pense que je vais gagner l'élection présidentielle.
Elle peut devenir présidente de la République dans un an?
Je pense que le risque existe et qu'il faut arrêter de jouer avec le feu.
Les Français ont entendu beaucoup de choses sur moi, souvent une description caricaturale.
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on revient à être quasiment un peu dans la mollesse. Il faut vous prendre des vitamines.
J'ai un nom devant moi pour leur dire qu'il m'apparaît que la nation, le projet de nation, leur permettra, je crois que c'était le slogan de Liverpool, de ne plus jamais marcher seul.
Un chant mythique des supporters de foot, notamment de Liverpool. Marine Le Pen a été interrogée hier durant près de 2 heures. La présidente du Rassemblement National a notamment expliqué qu'elle n'avait pas peur du pouvoir, qu'elle ne reculait pas devant l'obstacle, qu'elle formerait un gouvernement d'union nationale. Marine Le Pen convaincue que 2022 sera son année. Je pense que je vais gagner. Marine Le Pen a-t-elle raison d'y croire? Eh bien, pour le moment, vous êtes 60% à dire oui sur Twitter. Philippe Bilger, est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'elle a raison d'y croire?
Alors Philippe, pour une fois, je serai un peu long et je suis désolé. moi, je suis persuadé, et j'en prends le pari aujourd'hui, que Marine Le Pen sera battue en 2022, pas nettement, mais elle sera battue. Mais il n'empêche qu'elle a raison d'y croire, parce que il y a le nom de Le Pen ne constitue plus un handicap insurmontable. Le plafond de verre qu'on a invoqué trop souvent est en train de s'effriter. Et surtout, contrairement à ce qu'a prétendu le président de la République lorsqu'il a dit que le Front National existait avant lui, ce qui est une évidence, il lui a donné, lui, par la faiblesse de sa politique dans le domaine régalien et celui de l'immigration, une ampleur et une intensité considérables. J'ajoute que ce pouvoir ne sait pas comment prendre à Marine Le Pen ni le Rassemblement National. Il hésite, comme je l'ai lu tout à l'heure, entre banalité et diabolisation. La diabolisation est grotesque lorsque elle consiste à dire que Marine Le Pen est une ennemie de la République. La banalisation, elle est beaucoup plus efficace à condition qu'on ait quoi que ce soit à dire contre son programme. Et jusqu'à maintenant, je trouve que le pouvoir est très faible.
Philippe Deveul.
C'est une bonne analyse, mais moi j'ajouterais...
Pléonasme avec Philippe Bilger.
Oui, bien sûr, c'est une bonne analyse.
Non, malheureusement, mais... c'est pas le cas, mon cher Philippe.
Non, mais je suis d'accord sur beaucoup de choses. C'est-à-dire que la faiblesse, et comme je l'ai dit précédemment, la faiblesse de Macron comme président, qui en fin de compte un président de forme. Hein. Bon, alors il a été violent avec les gilets jaunes, une répression très dure, etc. Mais on voit que la violence flambe de partout, qu'il y a des coups de couteau tous les jours, qu'il y a un manque de respect partout, un manque de l'autorité de l'État. Enfin, une décrépitude de l'État. Ce qui me fait dire que il reste 450 jours avant les élections présidentielles et que le pire peut arriver dans ce pays. Tous les matins, on se réveille en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah ça flambait à tel endroit, on a peur que les banlieues s'enflamment. » Ben oui, mais si ça arrivait, ça changerait le calendrier politique des élections. Donc on ne sait pas ce qui peut se passer. Déjà, il y a l'inconnu et qui se précise à chaque fois un peu plus. Et puis deuxièmement, on ne peut pas faire de pronostics. Et si Marine Le Pen a dit qu'elle a des chances de gagner, ben évidemment, elle fait de la politique parce qu'elle dit voilà, je suis l'alternative concrète pour 2022. Mais on peut pas faire de calculs précis puisque à chaque fois qu'on a fait des calculs ou des prévisions, ça a été déjoué. On a vu pour Strauss-Kahn, on a vu pour Fillon. Enfin bon, donc on peut pas
pour
vraiment
Balladur, pour Jospin
et plein d'autres.
Ouais, c'est pas pareil.
Voilà, non, c'est vrai que c'est pas pareil, mais disons qu'on reviendra sur le fond. Je vais tout de suite céder la parole à Adrienne. Mais voilà, je crois dire, il y a un effondrement de l'autorité, etc. Et c'est-à-dire que tous les gens qui vont vers le RN, ils sont en quête d'autorité et de responsabilité de l'État.
Adrienne Bretons.
Moi, je pense qu'elle a effectivement raison d'y croire. Les derniers sondages, elle donne à 53-47.
Il y en a même un à 52-48.
Ouais, qui était la semaine d'avant, je crois.
Donc
ça, c'est un peu réduit, mais on est quasiment dans la marge d'erreur, en fait. C'est ça qu'il faut retenir de ce sondage. C'est pas tant l'écart que le fait que la marge d'erreur dans ces sondages doit être à peu près de 2%. Donc, en fait, on est peut-être à 50-50 dans la réalité des chiffres. Moi, ce qui m'a marqué dans son interview d'hier, c'est qu'elle ne cherche pas à convaincre, elle cherche plutôt à conduire les abstentionnistes à rester dans l'abstention. C'est ça qu'elle cherche à faire. Et notamment, un passage qui m'a beaucoup marqué dans son interview d'hier, c'est quand on la questionne sur Zemmour. Elle dit, moi je ne suis pas d'accord avec Zemmour, quand Zemmour dit que l'islam est incompatible avec la République. Pourquoi elle dit ça? Elle dit pas ça pour conforter son électorat de droite, d'extrême droite. Elle dit ça pour conforter l'électorat plutôt centriste, voire de gauche, qui pourrait au second tour se dire « je vote contre Marine Le Pen ». En ayant ce genre de discours finalement un peu plus à gauche que son positionnement classique, elle tranquillise un électorat qui pourrait se dire finalement si Marine Le Pen est élue, qu'est-ce que ça va vraiment changer? Est-ce que c'est si grave que ça? Etc. Donc j'ai l'impression qu'elle change de stratégie, qu'elle ne cherche pas à convaincre, qu'elle cherche plutôt à pousser les gens à s'abstenir. Le seul truc qui pourrait, à mon sens, la fragiliser, c'est sa mauvaise maîtrise des dossiers de fond. On l'a vu face à Darmanin sur le sujet immigration, qui est quand même son fond de commerce, donc c'était un peu inquiétant. Et ça sera, à mon avis, pire sur les sujets économiques. Elle a fait une tribune il y a quelques temps pour dire qu'il fallait rembourser la dette. Bon, je ne sais pas si vous avez lu ce texte, il était quand même assez indigent. Donc elle nous dit donc faut rembourser la dette. Bon, quasiment tout le monde est d'accord là-dessus.
Et puis, certains disent qu'il faut l'annuler. Hein.
À l'exception de la France Insoumise et d'Arnaud Montebourg, donc il y a quelques exceptions. Mais donc, faut rembourser la dette, ok, et puis il faut créer de la croissance. Bon, ben, là aussi, on est d'accord, mais il n'y a pas beaucoup de détails. Seulement là, on va rentrer dans une crise économique très forte. C'est quand même elle qui, il y a quelques années, disait aux Français vous en faites pas votre compte en banque en euros, on va le convertir en francs et ça va bien se passer, ce qui a effrayé en fait tous ceux qui ont un petit peu d'argent sur leur compte en banque.
Et beaucoup les retraités.
Exactement, mais pas que. Enfin, personne n'a envie de convertir 5 000 euros. En 5 000 francs. Donc, c'est quand même cette personne-là qui va devoir développer son programme économique dans les prochains mois. Et à mon sens, elle risque d'être très insécurisante pour les Français dans un contexte où l'économie va être au centre des débats pour 2022.
La Drôme, direction Grignan. Bonjour, Alexandre.
Oui, bonjour.
Écoutez, alors, qu'en pensez-vous?
J'aimerais vous donner ma position, mais il faut me laisser deux minutes.
Mais pas de problème.
Tant que ça.
juste pour que l'on pose les choses, j'ai 61 ans, j'en avais 17 quand j'ai compris que le système français, gauche-droite, ping-pong, ne pouvait pas fonctionner. La Suisse, où j'ai vécu plus de 35 ans, m'a appris ce que c'était qu'une démocratie. Quand En Marche... Je n'ai jamais été ni de droite ni de gauche. Pour moi, c'est le bon sens qui compte. Les bonnes idées sont de tous les côtés. Quand Macron a lancé le mouvement En Marche, j'ai tout de suite adhéré, dès le premier jour. Lors du deuxième meeting, je me suis dit, j'ai 35 ans d'informatique derrière moi, d'accord ? Lors du deuxième meeting, je me suis dit, si ce type, il arrive au pouvoir, on ne pourra plus le déménager. Et si ce n'est lui, ils mettront un clown à la place. Parce que ce qu'ils ont mis en œuvre au niveau médiatique, SMS, vous n'avez pas idée de la quantité de SMS que j'ai reçu, d'emails, de téléphones, c'est la folie.
De Trump ?
Non, pas de Trump, de Macron, non. Philippe Bilger.
D'En Marche. Oui. Concernant Madame Le Pen.
Rapidement.
Lors des dernières élections, j'étais prêt à voter pour elle. Tellement j'en avais marre du système français. En 10 minutes, elle s'est suicidée. J'ai coupé au bout de 10 minutes. C'était un suicide. J'ai l'impression que c'était volontaire. Tellement que c'était grotesque. Elle n'a aucune chance devant Macron. Elle n'a aucune chance devant M. Macron si elle participe.
Si c'est le même second tour qu'il y a 4 ans, qu'il y a 5 ans, quoi. Alors, merci beaucoup, Alexandre. Philippe Bilger n'arrête pas de me dire qu'il veut intervenir. On vous écoute.
Oui, absolument.
Est-ce que vous êtes d'accord avec Alexandre?
Non, pas totalement et pas tout à fait, d'ailleurs pas du tout.
Ah bon ?
Je voulais confirmer le point de vue d'Adrienne dans l'explication qu'elle a donnée hier de l'attitude de Marine Le Pen. J'ai eu l'impression qu'elle cherchait à achever par cette argumentation un front républicain qui est déjà très fissuré. C'est comme si elle venait dire, écoutez, faites un effort encore, le front républicain n'est plus nécessaire du tout, puisque moi-même je ne suis plus dangereuse sur aucun plan, j'aime les étrangers et donc je suis parfaitement normalisée. C'est une volonté de persuader ceux qui n'aiment pas qu'ils aillent dans ce sens-là.
Adrienne Bretons ? Vous êtes d'accord avec Philippe Bilger?
Oui, vu qu'il est d'accord avec moi, je suis assez d'accord avec lui.
Voilà. Mais est-ce que vous êtes d'accord, avec Alexandre qui dit si c'est face à Emmanuel Macron, oui, elle n'a aucune chance? Parce que finalement,
je suis pas totalement d'accord avec ça.
Est-ce que finalement, mais Emmanuel Macron, vu la quantité de personnes qui ne le supportent pas, ça pourrait être la meilleure chance de Marine Le Pen?
Oui, parce que sa chance, encore une fois, c'est l'abstention. Ouais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas vouloir voter pour Macron contre Marine Le Pen. Et en fait, la chance potentielle de Marine Le Pen, c'est d'être élue présidente avec peut-être 20% des votants. C'est ça qui peut se passer avec une abstention très forte parce qu'effectivement, il y aura un rejet d'Emmanuel Macron.
Bah, comme Emmanuel Macron, elle est élue avec 21% des votants au final. Donc,
avec une abstention peut-être très élevée. Mais moindre que ce qu'on pourrait avoir, je pense.
Je pense que là, il y aura une mobilisation. Non, je pense qu'avec le bilan désastreux d'Emmanuel Macron, même un cancre aurait ses chances. Quoi. Parce que, je veux dire, c'est quand même... Il y a quand même eu des erreurs flagrante et on voit bien le résultat, c'est erreur sur erreur, c'est contradiction sur contradiction, c'est le festival du en même temps, c'est de n'importe quoi.
Des contradictions ou du pragmatisme finalement aussi.
Mais les pragmatiques...
C'est un électeur à qui ça parle, celui auditeur.
Bien sûr, mais on n'a pas une vision nette encore des choses et la fin de l'histoire n'est pas encore terminée parce qu'en fin de compte, il peut se passer plein de choses.
Verdict sur Twitter, vous êtes 59% à penser que Marine Le Pen a raison d'y croire. Tout de suite, notre second débat.
Les vraies voix Sud Radio.
Vous reconnaissez le réveil pour ceux qui ont fait le service militaire. Deux jeunes agressent deux éducateurs dans la Loire parce qu'ils ne voulaient pas faire de pause cigarette. Cinq jeunes dont ils avaient la charge dans un centre éducatif fermé les ont frappés violemment. L'un des éducateurs s'est pris des coups de barre de fer. Ces dernières semaines, plusieurs rixes entre bandes et le meurtre d'Alicia Argenteuil ont mis en lumière des jeunes de plus en plus violents. On vous pose cette question ce soir. Faut-il un encadrement militaire pour les jeunes violents? Et pour le moment, vous êtes 81% à dire oui sur Twitter. Philippe Deveule, je vous ai coupé la parole parce que le débat continuait.
Oui.
Vous qui êtes de mémoire officier de réserve, est-ce qu'un encadrement militaire pourrait servir à quelque chose?
Déjà, la discipline, c'est important qu'elle soit militaire ou pas. Et vous savez très bien, je vous prends en témoin, que quand on était dans des écoles sévères, on a une formation, on a une discipline. Chose qui n'existe plus.
On voit les effets.
Voilà, on voit les effets ou les contre-effets. Mais c'est vrai que quand on voit ce délitement de la société, surtout chez les jeunes, etc., ça fait peur parce qu'on se dit comment on peut rattraper le coup. Parce que c'est très difficile de rattraper un adolescent qui est perdu entre l'âge de 12 ou 16 ans. C'est quasiment presque impossible, sauf avec des méthodes de cheval. Mais l'encadrement militaire, il est très bon. J'ai eu des formations militaires tout au long de ma vie. Moi, j'ai appris à être prêt, douche comprise, en 3 minutes.
Oui.
Et à faire un lit au carré. Et un lit en batterie. Donc, quelque part, c'est vrai que la discipline, ça paye et qu'on l'oublie et que ça paraît comme une valeur ringarde ou voire fascisante, quoi. Je veux dire, ce qui est inexact.
Philippe Bilger, l'encadrement militaire, l'ancien magistrat, vous y croyez?
Mais j'y crois d'autant plus que moi-même, je n'ai jamais eu véritablement, malgré les apparences, l'esprit militaire. Donc je suis prêt à octroyer aux autres ce que j'ai été incapable d'accepter. Mais en réalité, je rejoins Ségolène Royal qui avait, lors de sa campagne, évoqué cela. Et je pense que la solution militaire est peut-être la solution du dernier recours. Peut-être est-il prématuré de la mettre en œuvre. Déjà, on a encore, me semble-t-il, d'autres outils pour répondre au défi qui nous est lancé. Mais un jour, si c'est la seule solution, pourquoi pas?
On était dans la Drôme, direction Bordeaux. Laurent nous appelle de Bordeaux, donc au 0826-300-300. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Vous êtes pour l'encadrement militaire, vous?
Écoutez, moi je suis un peu partagé parce que moi, l'armée, quand je l'ai faite à l'époque, je l'avais vécu un petit peu comme une sanction parce que c'était imposé et c'était quelque chose que je ne voulais pas et qui a nuit à mon activité professionnelle au départ, au démarrage de mon activité professionnelle, on va dire. Maintenant, mettre un encadrement militaire, ça serait quand même pour faire face à un manquement de notre société, donc à la démission des parents, un laxisme, au non-respect des règles. Discussion de tout, aujourd'hui rien n'est imposé et on voit que des fois on laisse faire des choses et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des dérives et puis des gens qui ne savent plus respecter les règles. Et quand le feu est rouge, les rouges on passe pas. Et donc peut-être que s'il faut passer par un encadrement militaire qui, effectivement, comme ça vient d'être dit, impose de la discipline, du respect des règles, et puis aussi l'apprentissage de certaines valeurs, bah pour le coup, je suis plutôt pour. Ouais.
Adrienne, merci beaucoup. Laurent de Bordeaux, Adrienne Bretons. Bon, vous n'avez pas fait le service militaire, ça c'est sûr.
Non, j'ai fait la journée d'appel à la défense, oui. Voilà. Bon, c'est effectivement.
Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'encadrement militaire? Ségolène Royal en parlait, ça avait fait scandale à l'époque.
Tout à fait. Alors, ça existe en partie. Hein. Il y a le service militaire volontaire qui est justement pour des jeunes qui ont besoin d'un encadrement, mais c'est sur la base du volontariat. Si l'idée, c'est de mettre en place, de développer ce système-là comme une alternative à la prison, moi, je pense que ça peut être pertinent, finalement, pour un jeune qui a des difficultés, être dans ce type de structure où il est formé, accompagné, où il passe son permis de conduire, et ensuite, il est réinséré peut-être plus facilement dans la société, c'est peut-être mieux que d'être en prison avec des délinquants plus, qui risquent peut-être de le former, justement, à autre chose. Donc, pourquoi pas? Après, on parlait des RICS. Moi, je pense pas du tout que ce système là puisse avoir le moindre effet préventif pour éviter la violence des jeunes et les RICS qu'on a vus ces dernières semaines. Donc il ne faut pas se tromper de débat. La plupart des jeunes qui étaient dans les RICS de ces derniers jours n'avaient pas de casier judiciaire, n'étaient pas connus pour des faits de violence, donc de toute façon ils n'auraient pas été dans ces centres encadrés par des militaires. Ils le seront peut-être après, plus tard, mais donc ce n'est pas du tout préventif. Et je ne pense pas non plus que ça soit dissuasif, parce qu'on a là des jeunes qui quand même n'ont pas peur d'aller se battre avec des couteaux, donc ils n'ont pas peur d'être blessés, voire de mourir. Donc si on leur dit, si jamais tu te bats, tu seras encadré par des militaires, je ne suis pas sûre que ce soit beaucoup plus dissuasif que le fait de se prendre un coup de couteau et de finir comme malheureusement le petit Yuri qui a été agressé sur la dalle Beaugrenelle. Donc pourquoi pas comme alternative à la prison, mais par contre je ne pense pas que ça soit ni préventif ni dissuasif, donc il faudra à mon avis plutôt développer tout ce qui est association de quartier, encadrement des jeunes, tout ce qui a sauté en fait ces dernières années et sauté avec le confinement aussi.
Vous voulez dire un mot rapidement, Philippe Deveul, pour conclure?
Je pense qu'Adrienne, elle est généreuse, c'est une qualité, mais il faut être réaliste aussi. Il faut être réaliste parce que je crois que la discipline ça paye et de tout temps. Moi je me réfère aux classiques, aux fondamentaux, je me réfère à Sun Tzu, 4e siècle avant Jésus-Christ, il vous expliquait comment on faisait une armée, comment on faisait la discipline. C'est lui qui a été en charge de faire des concubines de l'empereur chinois de l'époque, sa garde prétorienne. Mais il l'a fait qu'à la seule condition, c'est qu'il ait tout le pouvoir sur ses concubines. Il a fallu qu'il en abatte deux pour qu'elles deviennent de très bonnes guerrières prétoriennes. Non, mais vous pouvez sourire. C'est l'Antiquité. C'est dans les textes. Et Sun Tzu est une référence stratégique. Donc, quelque part, c'est bien la générosité. Mais s'il n'y a pas de discipline... Alors, c'est vrai que j'ai surligné avec un exemple très fort. Mais s'il n'y a pas une discipline profonde dès la base, il y a un manque de spiritualité. Tout est parti à la dérive dans ce pays depuis 30 ans. Alors après, il ne faut pas pleurer. Mais oui, mais la solution, c'est pas dire « Ah, mes petits chéris, on va vous s'occuper de vous avec des petites associations. »
Non, parce
qu'il n'y a pas de respect dès le départ.
C'est juste que l'encadrement militaire ne répond pas au problème, vu que c'était des jeunes qui n'étaient pas répertoriés comme violents.
Mais ils ne savent même pas ce que c'est la discipline ou l'autorité.
Non, mais du coup, on fait quoi? On met tous les jeunes dans un encadrement militaire, même quand ils ne sont pas violents?
Il faut se poser des questions sur, justement, la perméabilité de la violence, de la banalisation de la violence, du rapport par rapport à l'autre, par rapport à l'humain, qu'il n'y a plus. Parce que ce n'est pas normal qu'à 12 ans, on donne des coups de couteau à celui qui ne vous plaît pas ou pour un mauvais regard.
Verdict sur Twitter, l'encadrement n'est pas militaire. Éducateur agressé par des jeunes dans la Loire, faut-il un encadrement militaire pour les jeunes violents? Vous êtes 81% à dire oui sur Twitter. Ça vous dirait de jouer les vraies voix? Eh bien, on va jouer au roi de l'info, mais juste dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Philippe Deveul et Adrienne Breton. C'est on va jouer au roi de l'info.
Les vraies voix Sud Radio. Le roi de l'info.
Il arrive toujours au son du clairon et du chat, c'est Jean-Marie Bordry.
Et du lion, n'oubliez pas le lion quand même, s'il vous plaît. On accueille avec ce rugissement de plaisir Christian qui nous appelle au 0826-300-300. Bonsoir à vous Christian.
Bonsoir. Oui, bonsoir les vraies voix. Moi je suis du lion, alors je rugis aussi.
Ah parfait.
Très bien, grand bien vous fasse. Cher Christian, je vais vous proposer de choisir l'une de nos trois vraies voix avec laquelle vous allez jouer contre les deux autres, Adrienne Bretons, Philippe Deveul, Philippe Bilger.
Philippe Deveul.
Philippe Deveul.
Philippe Deveul, oui. Très bien.
Ouais.
Bon, mais on
c'est
va...
bien lui. Allez.
C'est bien lui. On va commencer, je vais vous poser une question. Vous répondez en premier déjà pour la première. Et ensuite, oui. Si vous vous trompez, ben, les trois vraies voix se battent. Si c'est Philippe Deveul qui a la réponse, et ben, vous gagnez le point quand même. On est parti?
Allez.
Allez, première question. Quelle grande chanteuse et danseuse américaine adulée par les Français s'est éteinte il y a 46 ans, jour pour jour?
J'ai deux amours.
Joséphine Baker.
Bravo.
Bravo.
Née le 3 juin 1906 à Saint-Louis, dans le Missouri, elle est arrivée à 19 ans à Paris. Elle a entamé un nouveau spectacle au Théâtre des Champs-Élysées, adulée par les Français. Elle s'est éteinte le 12 mars 1975 à Paris. Ça vous fait un point. Allez, oui. Deuxième question. Là, tout le monde va répondre. Vous commencerez et je choisirai celui qui est le plus proche. D'accord? On va jouer au juste prix, chers amis. Fait rarissime. Paye tes dettes, nous disait Traîné. Le ministre des Comptes Publics, Olivier Dussopt, s'en félicite aujourd'hui. Un mystérieux donateur a légué à l'État 40 000 euros pour, je cite, réduire le déficit public. Les amis, on va faire un petit problème mathématique et tout le monde va s'y coller. Sachant que le déficit public s'élève, vous me voyez venir, à 178,2 milliards d'euros. D'après vous, il faut combien de chèques de 40 000 euros comme celui-ci pour arriver à le réduire à zéro? Vous allez tous répondre à tour de rôle. Je prendrai le plus proche. Vous, vous dites combien, Christian?
Alors,
à la louche. Il y a beaucoup de zéros quand même.
10 000.
Non. Adrienne? Sans la calculette.
Sans la calculette, mince.
C'est pas la calculette.
Allez, à la louche.
100 000.
Non. Philippe?
Allez, je dis 500 000.
Non. Philippe Bilger?
Mon cher Jean-Marie, j'ai envie de vous répondre comme Jean-Yann à son moniteur d'auto-école.
Oui, je m'en rappelle.
Qu'est-ce que
très
j'en
bien.
Ai à faire?
Ce sont vos dettes. Mais du coup, c'est Philippe Devel qui gagne. Et donc, c'est Christian. Il en faut 4,5 millions d'échecs. Ouais. Comme ça, pour réduire à zéro le déficit public. En revanche, on peut dire quand même que ce donateur a payé sa dette à la société, puisque 40 000 euros, ça équivaut au niveau de la dette publique par habitant en France. On doit tous 40 000 euros, justement, en fonction de l'endettement du pays. Allez, vous avez déjà gagné. D'accord. On termine. Je vais vous poser plutôt une devinette. C'est pas un problème mathématique pour le coup. Oui. C'est un record mondial de vitesse qui a été battu par une lettre envoyée par la poste entre deux villages à destination de Sisteron, en France, dans le sud-est. Sur une distance de 25 km. Deux villages reliés par une lettre, par la poste, sur 25 km. D'après vous, elle a mis combien de temps à arriver? Réponse numéro 1, 1 heure. Réponse numéro 2, 12 heures. Réponse numéro 3, 1 semaine. J'insiste, c'est un record mondial de vitesse.
Je dirais une semaine.
Mais bravo. Bravo. Une semaine à une lettre postée par la poste pour faire 25 km.
C'était le film de l'après-midi. Avec la poste.
Avec la poste. Et encore, c'est rapide, effectivement. C'est un record mondial. Vous vous rendez compte, 7 jours pour atteindre son but du 1er au 8 mars 2021. Une vitesse, en gros, de 3,57 km. C'est pas moi qui ai calculé. Par jour. Par jour. Dans la vallée du Sas. Et pourtant, c'était pas verglacé. Il y avait pas de congère. Il y avait pas plus de neige. Ça arrive. C'était pas prioritaire.
À pied, ça aurait été beaucoup plus vite. Bravo,
bravo
à
vous, Christian.
Merci. Bien pour le débat tout à l'heure, hein. Et moi je suis pour le retour du service militaire,
très bien.
Ancien gendarme.
Ah bah parfait.
C'est noté, restez en ligne. En tout cas, Léa va vous reprendre au standard de Sud Radio, vous allez lui donner votre adresse lyonnaise, et on vous envoie un mug. Sud Radio, on vous embrasse.
Merci et bravo à vous, Christian. À 18h30, notre grand débat AstraZeneca, pas de confinement, le gouvernement prend-il les bonnes décisions? Vous êtes 80% à dire non. On se retrouve dans quelques instants.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix, et après avoir été en mode Stromae pour la première heure, les vraies voix sont en mode Nelson Montfort pour cette deuxième heure, puisque la légende du journalisme sportif fête ses 68 ans aujourd'hui. Nelson, je te souhaite un bon anniversaire d'ailleurs et je t'embrasse. Et les vraies voix ont toutes quelque chose de champion qui ont été interviewés par Nelson Montfort. Alors on va faire un quiz et deviner quel champion est avec Nelson et à qui il correspond, mais je vous donne déjà des pistes. Comme Philippe Bilger, il est rapide comme l'éclair, a une musculature de fer et un coup de rein de légende. On écoute.
Maybe this was the race of your life. Peut-être était-ce la course de votre vie due to the circumstances.
Definitely, it was a big race. Justin Gatlin, a great athlete. That was not a question. So.
Oui, c'est vrai. Sans aucune question, c'était effectivement the race that counts the most, maybe in your heart tonight.
Alors, la course qui compte. Est-ce que vous avez trouvé Philippe Bilger? Il a même dit le nom d'un de ses concurrents prestigieux.
C'est pas le mec qui a gagné le champion olympique du 100 mètres?
Si, mais comment il s'appelle?
Mais j'ai un trou.
Ah bah ça tombe bien parce que son nom de famille en anglais veut dire écrou. Usain Bolt.
Ah voilà, mais bien sûr.
Usain Bolt, absolument. C'était bien d'avoir un trou, alors ça veut dire écrou. Allez, comme cette immense championne, Adrienne Breton se répond aux arguments des vraies voix par des coups à plat, des lifts ou des chops et même parfois des lobes. On
c'est
écoute.
C'est pas simple aujourd'hui, c'est très difficile, mais je pense que je joue très bien, mais je cuirais beaucoup et je commence à penser beaucoup sur le corps.
Et alors, tout de même, vous avez mené notamment dans le deuxième set, vous
ça vous dit crois, rien 4 à 1, des lobes. Et Julia c'est quel sport ah,
bah oui, du tennis, mais alors avec cet accent, je sais pas.
Elle est américaine.
Ah, bah elle parle très bien français.
Oui, bah son compagnon est français, alors ça aide.
Ok.
Il s'appelle.
Ah, il l'est plus. Il ah, l'est plus.
Oui, enfin, elle a eu un compagnon français, Philippe Bilger.
Attention,
qui dit voici toutes les semaines.
Attention.
C'est une des sœurs Williams.
Oui, voilà
ah,
qu'elle.
Ah, bravo.
Serena Williams. Bonne réponse.
Impressionnant, son niveau de français, je ne savais pas.
Ah, ben, elle parle très, très bien français. Ah, ouais. Et avec Philippe Deveul, les débats volent toujours très haut, comme cet immense champion. Alors là, lui, il est français.
Ce soir, on vous voit tenter un seul saut à 5m70 et vous passez très très bien.
Ah ben là.
Ouais, bah, c'est vrai que c'était assez pratique de venir en tuk-tuk au stade.
Non. Très sympa cette séquence.
Ouais, bah, il faut bien rigoler un
5m70, on a trouvé le sport, Philippe Deveul.
Oui, le saut en hauteur.
Ah non, 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 à la perche.
Non,
celui qui fait 5m70 en hauteur, alors là, c'est zébulon, il est monté sur ressort.
Non, mais je suis pas assez calé là-dessus.
Il est pas vilain, Philippe.
Oh, le très bon jeu de mots. Son prénom est Renaud.
Ah ouais, je donne ma langue à.
Et c'est lui
Adrien.
Qui a battu le record du monde qui durait depuis des années de Sergueï Boubka à la perche, pardon.
Ouais.
Renaud Lavillenie. Bonne réponse. Ouais. Mais Philippe Bilger avait trouvé. Donc,
mais
bonne
Philippe,
réponse à tous les trois.
Moi, je ne suis pas Nelson Montfort. Quand je parle un français, je ne suis pas capable de traduire en anglais.
Mais d'ailleurs, ça tombe très bien. À 18, mais évidemment, on a Jamel à la réalisation, Jean-Marie Bordry qui nous fera tout à l'heure le clin d'œil des vraies voix, et Léa au standard. À 18h30, notre grand débat, maintien du vaccin, AstraZeneca, pas de confinement, le gouvernement prend-il les bonnes décisions? Et pour le moment, vous êtes très majoritaire à dire non, puisque vous êtes 81% à dire non. Allez, vous êtes prêts pour un deuxième tour de table de l'actualité, les VV? Eh ben c'est parti.
Ah oui.
Oh, dites, je vais envoyer les actualités. Vous venez les voir dans la cabine.
Je vais vous raconter une histoire pas banale.
Et vous, vous me racontez pas votre petite journée?
On a assez perdu le temps comme ça.
Le tour de table
de l'actualité.
Et c'est vous, Philippe Bilger, qui voulez nous parler du dernier livre de Renaud Revel.
Voilà, j'ai beaucoup aimé ce dernier livre d'un journaliste talentueux qui a écrit Les Visiteurs du Soir. Mais ce qui m'a intéressé dans son livre en particulier, c'est qu'il dresse des portraits extrêmement fins, complexes, parfois critiques, d'autres fois louangeurs. Et en particulier, j'ai beaucoup apprécié le portrait qu'il a fait de BHL. Et bizarrement, le portrait de BHL, avec des talents incontestables, m'a fait penser à quelqu'un que j'estime beaucoup par ailleurs, Michel Onfray. Et j'ai compris pourquoi je préférais Michel Onfray à BHL. Pour une raison simple, c'est que dans le livre de Renaud Revel, on voit que BHL épouse absolument tous les pouvoirs. Il se niche en permanence dans l'ombre du pouvoir. Tous les présidents y passent, parfois pour des causes personnelles ou familiales, et souvent parce qu'il veut accomplir lui-même des choses. Tandis que j'aime énormément chez Michel Onfray, quoi qu'on puisse penser de lui, de son talent, de ses écritures et de son oralité, j'aime énormément que, au fond, il soit du côté du peuple, qu'il avait justement défini un jour en disant « le peuple, c'est ceux qui résistent au pouvoir ». Voilà. Et donc, j'ai décidé d'un teint un peu progressiste dans mon coup de cœur.
Adrienne Breton, je ne vais pas vous demander si vous êtes Nadal ou Federer, comme on était avec Nelson Montfort, vous êtes Onfray ou BHL?
Est-ce qu'on peut répondre ni l'un ni l'autre?
Bah, c'est votre droit.
Oui, on va répondre ni l'un ni l'autre, alors.
Et pourquoi?
Mais Adrienne, elle est Laurent Geoffrin.
Exactement,
attendez.
Voilà.
Bah oui, c'est
Laurent Geoffrin. Mon visiteur du soir qui n'en est pas un.
Oui,
plutôt,
voilà.
Plutôt Laurent Geoffrin. Non, mais Michel Onfray, c'est effectivement pas forcément ma tasse de thé pour des raisons idéologiques qui ne seront pas surprenantes. BHL, il a effectivement épousé tellement de causes différentes qu'au bout d'un moment, c'est difficile de savoir quand on soutient BHL, ce qu'on soutient. Est-ce qu'on soutient la position qu'il avait prise lors de la guerre dans les Balkans? Est-ce qu'on soutient l'intervention en Libye? Enfin, il a soutenu tellement de causes différentes que c'est difficile de le soutenir, lui, et de soutenir l'entièreté de ce qu'il a pu soutenir. Voilà, donc...
Et vous êtes plutôt Onfray ou BHL?
Votre avis.
J'ai ma petite idée.
Vous avez votre... oui. Eh bien, je pense qu'elle est bonne.
Bah, BHL. Je plaisante.
Alain Minc. Non. Parce qu'il y a aussi le portrait d'Alain Minc. Dans le...
Non, je suis. Oui. Non, Cohn Bendit. Non, moi c'est Michel Onfray. D'abord, je suis solidaire aux Normands. Je suis d'origine normande par mon nom, donc c'est la Normandie. Et puis je trouve que Michel Onfray est remarquable dans ses démarches, dans ses approches, dans ses explications, dans la maturité, la maturation de ce qu'il est aujourd'hui, et que il est dans le vrai. Et j'en avais parlé ici il n'y a pas si longtemps de son voyage au Karabakh où il a témoigné de ce qui s'est passé, de ce tabassage, de ce passage à tabac de cette population arménienne par les Azéris. Qui était avec les Turcs, etc. Voilà, alors que BHL, si vous voulez, c'est une question, c'est un peu selon le vent, selon la position politique, et puis c'est un patchwork contradictoire. Alors je ne dis pas que BHL n'a pas de qualité, il en a, mais non, je crois qu'il en a trop fait, et que parce qu'il en a trop fait, il n'est plus crédible. Alors que Michel Onfray reste dans le vrai, je crois que c'est quelqu'un qui est vraiment proche du peuple par son action, par son discours, par ses écrits, et qu'il a, il a une réflexion réelle sur les questions d'actualité, et je crois aussi qu'il influence un petit peu le positionnement de beaucoup de personnes aujourd'hui.
Bon, je vous pose une question, vous êtes plutôt de Philippe Bilger ou Michel Onfray?
Pardon, plaît-il?
Vous êtes plutôt Philippe Bilger ou Michel Onfray?
C'est pas la
moi,
même
je suis Michel Bilger.
Voilà, c'est
le côté hollandiste de Philippe Bilger qui fait toujours la synthèse.
Je peux pas
je
choisir.
Je dirais Adrienne Onfray. J'adore.
Vous êtes bien sur Sud Radio, les vraies voix. Il est 18h15. Dans quelques instants, on va prendre la direction de Marseille. On sera avec Catherine Lecoq, artiste et militante CGT, puisqu'elle occupe en ce moment même le théâtre du Merlan. Le Merlan, c'est un quartier de Marseille et nombre de théâtres sont aujourd'hui occupés par les intermittents du spectacle. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Un son qu'on a oublié, oui. Un an pile après le premier confinement, nombre de théâtres sont occupés dans toute la France par les intermittents. Un mouvement qui pourrait durer vu l'absence totale de visibilité offerte au monde des arts vivants. Nous sommes en compagnie de Catherine Lecoq, artiste et militante à la CGT Spectacle, qui occupe en ce moment même le théâtre du Merlan à Marseille. Catherine Lecoq, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue sur Sud Radio. Tout d'abord, comment est né ce mouvement qui a essaimé dans toute la France?
Pardon?
Comment est né ce mouvement qui a essaimé dans toute la France? Il n'y a pas que le théâtre du Merlan qui s'est occupé. Il y en a à Besançon, à Paris, à Nantes, etc.
L'Odéon a donné le top départ le 4 mars, lors de la manifestation Action, etc., qui a eu lieu dans toute la France, parce que c'était une commémoration des fermetures de nos lieux. Suivant donc l'écoute ou non de notre gouvernement, eh bien, il a fallu montrer un petit peu plus de détermination, donc au travers des occupations de lieux. Nous en sommes à 18 ce soir.
18, oui, c'est un peu dans toute la France. Et est-ce que les intermittents ont eu des aides à la hauteur, Catherine Lecoq?
On ne peut pas le dire, non, on ne peut pas. Même si ce matin, il nous a été proclamé 20 millions de compléments, on ne sait pas où cet argent va aller. Au niveau des directives, effectivement, vers les artistes et les techniciens, peut-être encore les lieux, on ne sait pas puisque ça transite par les DRAC.
Direction régionale des affaires culturelles.
Tout à fait. 20 millions, c'est une goutte d'eau dans un océan.
Philippe Bilger.
Mais j'aimerais demander à Catherine Lecoq, au fond, quel est le ressort fondamental de leur combat ? Qu'est-ce que les intermittents souhaitent ? C'est une pure question financière ? Est-ce que c'est un problème de reprise des activités ? Qu'est-ce que c'est exactement ?
Alors, c'est plusieurs choses, en effet, pas seulement une question financière, une question surtout de travail, parce que nous ne travaillons plus depuis un an, ce qui veut dire aussi que nous sommes donc en perte de cotisations sociales, c'est-à-dire nos droits sociaux, tels que la maladie, la grossesse, la retraite, droit au congé, etc. Nos caisses de formation qui crient famine. Et beaucoup de gens, justement, se forment pour partir dans d'autres métiers, malheureusement, depuis un an, parce qu'ils n'ont plus la possibilité de se nourrir, tout simplement. Il n'y a pas que cet aspect-là. Il y a aussi l'aspect de l'abrogation absolue de la réforme de chômage au 1er juillet, puisque ça va mettre encore plus en péril des personnes qui sont déjà fort précaires et d'autres personnes qui vont inévitablement venir grossir les rangs du chômage. Donc, on va encore réduire les possibles. Ensuite, nous réclamons évidemment des processus qui puissent permettre la réouverture des lieux afin que nous puissions effectivement reprendre le travail, parce que l'important pour nous étant de travailler, mais avec des conditions évidemment sanitaires, idoines, on est bien d'accord. Parce avons aussi à cœur dans nos organisations de protéger les salariés, pas seulement publics, vous voyez.
Adrienne Bretons.
Oui, je pense que ce qui est important, c'est quand même de pouvoir donner des perspectives à ce secteur qui maintenant est sous cloche depuis pratiquement un an. On devrait quand même aujourd'hui avoir des statistiques sur le taux d'incidence du coronavirus selon les lieux. Est-ce qu'on se contamine plus dans les restaurants, dans les lieux privés, dans les théâtres ? Je crois qu'il y a des premières études qui sont sorties qui montrent en fait que le taux d'incidence du Covid dans les lieux culturels n'est pas si importante que cela. Alors ça n'a pas été mesuré en France, ça a été mesuré dans d'autres pays, mais surtout on doit pouvoir mettre en place un certain nombre de dispositifs pour maintenir les gestes barrières, maintenir l'éloignement. Quand on est au théâtre, on ne parle pas, donc a priori, il y a peu de diffusion du virus. Si en plus on est espacé, qu'on a un masque, on doit pouvoir trouver des solutions pour recréer des pièces et avoir des spectateurs, quitte à en avoir moins que d'habitude.
Philippe Deveul.
Ouais, c'est une situation qui commence à devenir très compliquée pour les gens du spectacle. Et c'est vrai que si on prend des mesures, alors maintenant que les beaux jours vont arriver, est-ce qu'on ne pourra pas privilégier les spectacles en plein air, avec les distanciations, avec toujours des précautions ? C'est certain, peut-être pas se précipiter non plus à tout rouvrir et puis retomber dans des situations qui seraient encore difficiles, parce qu'on vous dit quand même dans la région parisienne on est en zone rouge. C'est quand même un peu ce virus a aussi une part de mystère, parce que combien même on a les mesures barrières, on a les masques, on doit faire attention, eh bien il y a toujours des contaminations et il y a toujours des gens en réanimation. Alors je pense, et croyez-moi, je crois que vous avez pu comprendre, j'étais pas pro gouvernement, je pense pas que ce soit dans leur intérêt que d'embêter les gens du spectacle, bien au contraire. Donc c'est ma vue.
Catherine Lecoq, qu'est-ce que vous attendez du gouvernement ? Parce que, comme vous le disiez, réouvrir les salles avec un siège sur deux et tout le monde masqué, ça va pas être plus contaminant que le RER à 8h du matin.
Absolument.
Ou le métro de Marseille.
Que, puisque votre collaboratrice donc parlait tout à l'heure des études qui sont menées, on voit que...
C'est Adrienne Breton, ce qui n'est pas collaboratrice, mais qui est vraie voix.
Voilà, pardon.
Elle est plutôt résistante.
D'accord, ben j'ai pris en cours donc. Il est à noter quand même que les clusters se trouvent plutôt dans les foyers personnels, c'est-à-dire dans les familles et dans les lieux de culte. Or, dans les théâtres, il a été effectivement noté que peu de pourcentage de cas avaient été relevés. Dans les milieux lyriques, peut-être plus, parce qu'effectivement, mais surtout au niveau des chanteurs, des artistes hein, donc eux-mêmes, mais en aucun cas dans les cinémas et les théâtres, il n'y avait de danger. Donc si on met en disposition quand même des protection sanitaire, c'est-à-dire si on met des moyens aussi pour permettre aux gens de pouvoir réintégrer les salles, parce que c'est bien de dire qu'effectivement, d'ici peu, nous allons pouvoir réouvrir les spectacles ou rejouer en extérieur parce que les beaux jours vont arriver. Mais en attendant, on fait quoi pour gagner notre vie? Parce que l'été, c'est juin, juillet, août, et après, on referme tout. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va rester pendant des années comme ça, en atermoiement, à se poser les questions et sans donner de réponse? Ça fait un an qu'on attend des réponses. Alors, vous me demandez qu'est-ce que j'attends du gouvernement? J'ai l'impression qu'on n'attend plus rien de ce gouvernement, surtout. Surtout que...
Très vite.
On se demande si ça n'est pas une volonté politique de nous faire fermer, effectivement. Parce que nous allons aussi propager autre chose que simplement le fait de vouloir retravailler, mais d'avoir une justice sociale qui est en train de se dégrader. Tous les droits des salariés dans ce pays sont en train de se dégrader. Les citoyennes et les citoyens n'ont plus de liberté individuelle.
Merci beaucoup Catherine Lecoq, artiste et militante à la CGT, qui occupe en ce moment même le théâtre du Merlan à Marseille. Dans quelques instants, notre grand débat. AstraZeneca, pas de confinement. Le gouvernement prend-il les bonnes décisions? Et pour le moment, vous êtes 81% à dire non. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Droton, c'est Philippe Deveul. Olivier Véran a donné une conférence de presse hier sur l'état de la situation sanitaire en France. Une situation très inquiétante, notamment en Île-de-France où les hôpitaux sont saturés. Les contaminations s'envolent et pourtant l'Île-de-France ne sera pas confinée a priori. Une décision qui inquiète certains médecins. De plus, après des troubles de coagulation, c'est compliqué, observés chez des patients dans certains pays d'Europe suite à des injections de vaccins AstraZeneca, Olivier Véran a confirmé hier que ce vaccin ne serait pas suspendu en France. D'où notre grand débat des vraies voix, maintien du vaccin AstraZeneca, pas de confinement. Le gouvernement prend-il des bonnes décisions? Pour le moment, vous êtes 81% à dire non. Avec nous, Frédéric Lapostol, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Frédéric Lapostol, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le même temps, le vaccin Janssen de Johnson & Johnson vient d'être validé. Votre première réaction à cette validation?
Notre seule issue, ce sera la vaccination large. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que de savoir qu'il y a un nouveau vaccin, en espérant qu'il sera rapidement disponible pour continuer à vacciner plus et plus vite.
Alors justement, le principe de précaution, je reviens sur AstraZeneca, est inscrit dans la Constitution. Pourquoi n'est-il pas appliqué, sachant que Danemark, Norvège, Islande et cet après-midi la Bulgarie ont suspendu l'utilisation du vaccin d'AstraZeneca?
Probablement parce que les autorités européennes ont considéré que l'incidence des événements que vous évoquiez, les événements de constitution de thrombus et a priori d'embolie pulmonaire, n'était pas augmentée parmi le nombre de patients qui a été vacciné. Pour bien comprendre, l'embolie pulmonaire, c'est quelque chose comme 100 000 patients en France dans une année. Donc c'est relativement fréquent. Et plus on va vacciner, plus on va trouver des gens qui vont, par hasard, faire une embolie pulmonaire juste après le vaccin. Donc, le moyen de savoir s'il y a ou pas une relation entre les deux, le premier, et c'est a priori ce qu'a fait l'Agence européenne du médicament, c'est de regarder si, sur le nombre de personnes qui ont reçu le vaccin, on a une différence par rapport à la population générale et par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Évidemment, ces informations, pour l'instant, il n'y a que l'Agence européenne qui en dispose au cas par cas, et eux ont conclu qu'il n'y avait pas raison, actuellement, de suspendre l'utilisation de ce vaccin.
Philippe Bilger.
Est-ce que vous ne craignez pas, Frédéric Lapostol, que, alors qu'on avait l'impression que la philosophie, si j'ose le terme, anti-vaccin, avait singulièrement diminué, est-ce que vous ne craignez pas que ces polémiques, même si vous avez parfaitement expliqué de quoi elles relèvent, aggravent encore ce sentiment anti-vaccin ?
Écoutez, oui, mais on peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On a demandé aux autorités de santé d'être transparentes, déclarer qu'il y a eu des incidents et qu'il y a des enquêtes en cours. Fait partie de cette transparence. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Pour l'instant, on n'a pas, encore une fois, j'insiste, d'autres issues que le vaccin. On peut utiliser le principe de précaution, mais c'est évident que plus on va augmenter le nombre de personnes qui vont être être vacciné, plus on va avoir par hasard des incidents et derrière l'imputer au vaccin. Donc je vous l'ai dit, la première façon de faire, c'est de regarder s'il y a une différence dans l'incidence par rapport à la population générale. Et puis il y a une autre façon de faire, mais elle est beaucoup plus complexe au cas par cas, c'est patient par patient, de regarder, il y a des critères très précis, ça relève de la pharmacovigilance, on appelle ça l'imputabilité. Est-ce qu'on va pouvoir ou pas imputer l'événement au médicament? On aura la réponse, mais là on aura la réponse de façon un peu plus tardive. Donc moi je crois qu'on est dans une situation telle aujourd'hui, avec des résultats qui sont suffisamment rassurants pour que on privilégie de très très loin la campagne de vaccination, parce qu'il faut en sortir.
Philippe Deveul.
Enfin, je crois que la vérité, elle surgira avec le temps, parce que ma crainte sur les vaccins, c'est les effets secondaires, et les effets secondaires peuvent être quasi immédiat, comme on le voit dans certains cas pour des thromboses qui seraient supposées dues à l'AstraZeneca. Et paradoxalement, l'AstraZeneca, c'est celui qui a le vacciné le plus de gens en Angleterre, et il n'y a pas eu franchement de cas présentant des thromboses ou des embolies pulmonaires avec ce vaccin. Alors, en revanche, ce que je trouve, ce que je salue, c'est que ces pays qui suspendent ce traitement respecte le principe de précaution. Et c'est ce que je reproche un peu au gouvernement, c'est-à-dire qu'on y va, on fonce, le bénéfice est plus important que le risque. J'ai l'impression que quand même, il faudrait avoir de la prudence, parce que qui peut nous dire les effets que procureront ces vaccins d'ici un an, deux ans ou trois ans? Il n'y a que le temps. Donc, moi, je suis mitigé sur la question. Je pense qu'on aurait pu suspendre momentanément pour faire des études et dire oui, en effet, ce sont que des coïncidences, on continue, que dire non, on y va, on fonce. Voilà, c'est mon point de vue.
Professeur L'Apostole.
Il semble que, encore une fois, avec des informations dont, pour l'instant, seule l'agence européenne dispose, elle ait fait cette enquête et elle ait considéré qu'il n'y avait pas de sur-risque. Et vous l'avez dit, les Anglais qui ont largement utilisé ce vaccin ne l'ont pas relevé. Ils nous ont montré, par le suivi de leurs patients, que ce vaccin protégeait avec un niveau qui était très comparable à celui des virus, des vaccins ARN sur l'émergence des formes graves et les décès. Et moi, je crois, à l'inverse, qu'on est dans une situation aujourd'hui tellement critique sur le plan sanitaire, mais tellement critique sur tous les autres plans, que il faut continuer la campagne de vaccination. Effectivement, on pourrait appliquer tout le temps le principe de précaution, mais là, en l'occurrence, on est au-delà du principe de précaution. L'agence européenne a regardé, elle considère que le sur-risque n'est pas avéré. Moi, je pense que la précaution, c'est d'être vacciné et de sortir de cette crise pour des raisons sanitaires, mais évidemment pas uniquement sanitaires.
Adrienne Breton.
Oui, moi, j'ai deux questions pour le professeur. La première, sur l'agence européenne du médicament, donc ne suspend pas la vaccination avec AstraZeneca, mais on a quand même quatre agences de santé dans quatre pays européens qui suspendent la campagne de vaccination. Donc comment est-ce qu'on explique cela? Comment est-ce qu'on explique que quatre pays européens ne suivent pas finalement l'avis de l'agence européenne du médicament? Première question. Et deuxième question sur le vaccin Johnson & Johnson, qui semble être un peu la solution miracle, parce que c'est un vaccin classique, mais qui a une efficacité apparemment assez élevée, de 85%, une seule injection. Est-ce qu'on sait quand on aura des doses de ce vaccin, et est-ce qu'on sait si la France aura une quantité importante de doses de ce vaccin Johnson & Johnson?
Alors, pour répondre à la première question, la réponse est pour l'essentiel dans les discussions qui ont précédé. Certains d'entre vous disent on aurait souhaité que l'agence française du médicament dise qu'on arrête. Les agences de certains pays ont pris cette décision, donc c'est simplement comme ça que ça s'explique. Dans certains pays, ils ont peut-être poussé plus loin que la France l'application du principe de précaution, chacun des gouvernements en est responsable. Pour ce qui est de la disponibilité du vaccin de Johnson & Johnson, écoutez, je pense que les ministres et Olivier Véran sont mieux placés que moi pour nous dire quand et dans quelle quantité. A priori, pas immédiatement en tout cas.
Direction le 0826-300-300. Bonsoir Thomas.
Bonsoir.
Alors vous, quelle est votre position? Est-ce que le gouvernement fait ce qu'il faut, notamment sur les vaccins, avec AstraZeneca? Alors,
en ce qui concerne le vaccin AstraZeneca, moi je pense que, alors déjà, moi je considère que ce n'est pas le gouvernement qui prend ce genre de décision, mais c'est bien en France l'Agence nationale de sécurité du médicament. Et qui vient d'ailleurs de donner un avis très clair qui dit qu'il faut continuer la vaccination avec AstraZeneca. Et ça se fait, il faut savoir aussi, moi j'ai un site web qui s'appelle cartedéconfinement.fr sur lequel il y a entre autres le suivi de la vaccination. Aujourd'hui, il y a 118 613 personnes qui ont été vaccinées par un vaccin AstraZeneca. Et sur ces 118 613 personnes, il y a un seul cas de thrombose multiple en France. Donc, il faut aussi se dire que, effectivement, comme le disait le professeur tout à l'heure, c'est fort probable que ça n'est pas dû à ce vaccin, mais c'est simplement un cas de thrombose qui se serait manifesté aussi sans ce vaccin. Donc, il faut pas, à un moment, je pense qu'il faut pas non plus se dire on devient hystérique quand on a un cas de quelque chose, parce que ça peut se produire dans la vie normale sans aucun vaccin. C'est pas forcément lié au vaccin.
Vous dites qu'il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, en clair.
Exactement, parce que je pense que justement aujourd'hui, alors quand on le demande, je pense à n'importe quel Français. Alors moi, je suis pas Français, mais quand j'habite quand même en France, quand on demande à n'importe quel Français si aujourd'hui il aimerait se sortir de la situation Covid-19 avec toutes les contraintes qui vont avec, je pense qu'il y en a pas un qui va vous dire non.
Thomas, vous avez une pointe d'accent. Vous êtes originaire de quel pays?
Je viens des Pays-Bas, moi.
La vaccination se passe mieux aux Pays-Bas qu'en France? Vous devez avoir de la famille là-bas encore?
Alors, j'ai de la famille là-bas, effectivement. Toute ma famille est là-bas. Alors, qu'est-ce qu'on peut appeler mieux ou pas, ou moins bien? Les Pays-Bas, souvent, les choses sont organisées de façon un peu carrée. Donc, c'est à nouveau le cas. En revanche, il n'y a pas plus de vaccinations, donc en termes de pourcentage, hein, quand on ramène à la population, qui ont été faites aux Pays-Bas qu'en France. Et c'est aussi ça, moi, qui me gêne souvent avec le point de vue français sur ces choses-là ou sur plein d'autres choses, c'est qu'en fait, on est un peu nombriliste en France. C'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe en France, on se dit, c'est pas bien, sauf qu'en fait, quand on regarde autour de nous, on se rend compte, si effectivement on a cette ouverture d'esprit de regarder autour de nous, on se rend compte qu'on n'est pas si mauvais que ça. Aujourd'hui, en France, on est quand même je crois qu'on est dans le top 5 des pays qui a administré le plus de doses. Alors, quand on le ramène aux 70 millions de personnes en France, c'est faible, mais en termes de nombre de doses, c'est assez élevé. Donc, il faut aussi comparer les choses qui sont comparables.
Merci Thomas. On va faire réagir le professeur L'Apostole.
Écoutez, je suis globalement d'accord avec cette position. On voit bien qu'il y a une relative homogénéité dans les pays européens sur la population vaccinée. Si on met de côté les Britanniques, mais de fait, ils ne sont plus stricto sensu dans l'Europe, ne serait-ce que par le fait que la commande a été commune et le dispatching théoriquement relativement équitable. Donc après, certains pays sont allés plus vite, ont été un peu mieux organisés pour vacciner et être un peu en avance, mais globalement, les pays européens sont assez homogènes dans le taux de population vaccinée, ce qui est complètement attendu, en fait.
Professeur L'Apostole, sur la phase 2 après le vaccin, le reconfinement, certains appellent à un reconfinement de l'Île-de-France. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah, mais il est trop tard. Il est trop tard. D'abord, la stratégie qui a été choisie il y a quelques semaines de ne pas confiner, on savait que c'était une espèce de pari, parce que on est bien placé maintenant. Ça fait quand même un an qu'on se rend compte que les prévisions, les prédictions ont rarement été pertinentes. Donc, le pari a été fait de ne pas confiner. Il a été maintenu, ce pari, quand le Pas-de-Calais a été confiné, alors que l'Île-de-France n'a pas été confinée. Ce jour-là, il y avait autant de cas pour 100 000 habitants en Seine-Saint-Denis que dans le Pas-de-Calais. Donc la décision a été maintenue. La ligne de conduite est la même. On est aujourd'hui dans une situation en Île-de-France et en particulier dans l'est de l'Île-de-France, en Seine-Saint-Denis, où de toute façon on est déjà débordé. Si on confine maintenant, les effets bénéfiques d'un confinement se feraient sentir dans 8-10 jours. Pour gérer la crise actuelle, il est trop tard. Donc les 10 prochains jours, on va devoir les gérer comme on peut, mais si ça continue à monter, ça va être très très compliqué.
Philippe Bilger, vous craignez un nouveau confinement ou c'est trop tard, comme le dit le professeur L'Apostole pour vous?
je le crains, tout en n'étant pas évidemment savant comme le professeur l'apostole, je crois qu'on y va. Si j'ai bien écouté le ministre Véran hier soir, il nous l'annonce, je dirais presque de manière certaine, mais je constate que le professeur, qui s'y connaît mieux que moi, dit que ce serait trop tard et sans doute parfaitement inutile. Donc les perspectives ne sont pas roses.
Adrienne Breton, ce qui elle est en rose d'ailleurs, pour ceux qui nous regardent en Facebook Live.
Non, mais la meilleure solution, effectivement, pour éviter le confinement, le professeur l'a dit, c'est la vaccination. Alors, je voudrais juste revenir quand même sur les chiffres, parce que moi, je n'ai pas la même lecture que ce que nous a dit l'auditeur.
Thomas.
Thomas, j'ai l'impression qu'on est plutôt en retard en termes de vaccination. On est à 8% de la population vaccinée en France. Le professeur me corrigera si ce n'est pas le cas. Ce qui veut dire qu'on a à peu près 4 millions de personnes vaccinées en France. Au Royaume-Uni, il me semble qu'ils sont à 23 millions de personnes vaccinées. Donc, on a quand même un retard là-dessus. Et d'où une question pour le professeur. Est-ce qu'on ne devrait pas changer de stratégie sur la vaccination et adopter la stratégie du Royaume-Uni qui a vacciné en première dose quasiment tout le monde, quitte à décaler la seconde dose, avec comme argument que la première dose permet déjà d'avoir une certaine immunité.
Ah oui.
Donc est-ce qu'on ne devrait pas faire ça pour vacciner plus rapidement et plus largement la population et puis du coup arrêter les confinements?
C'est une vraie question stratégique. Au moment où les Britanniques ont fait ce choix, c'était là aussi un peu un pari. Et puis les études qu'ils ont réalisées dans le suivi de leurs patients montrent que cette stratégie est gagnante. Elle est gagnante deux fois. Elle est gagnante parce que ça n'altère pas l'immunité des patients et puis parce que évidemment ça permet de vacciner plus vite plus de monde. Donc oui, c'est une hypothèse. Comme vous le savez, pour l'instant, c'est pas une hypothèse qui est retenue. Mais je suis complètement d'accord avec vous pour dire qu'on a vacciné aujourd'hui avec une première dose quelque chose comme 4 ou 4,5 millions d'habitants. L'objectif affiché de 40 millions ou 30 ou 40 millions de personnes vaccinées à l'été, on voit bien que ça va être très compliqué si on ne va pas très rapidement, beaucoup plus vite, parce que ça fait quand même 2 mois qu'on accélère, il serait peut-être temps qu'on soit à fond. Or, on n'est encore pas à fond et on nous annonce l'arrivée de plus de vaccins dans un mois et demi. Donc l'objectif va être très compliqué à atteindre et le problème, c'est que l'immunité collective qui va nous permettre de sortir de ce tunnel, elle est dépendante du fait qu'on aura atteint cet objectif et qu'on aura atteint on va dire 40 millions de Français vaccinés. Donc il y a un vrai challenge et une des pistes, effectivement, c'est celle de l'allongement du délai entre les deux injections.
Dernière question pour une réponse en 30 secondes, professeur L'Apostole. Comment expliquer ce fiasco logistique en France ?
Ben, il est d'autant plus regrettable que ça fait si on a une première vision, ça fait un an qu'on sait qu'on va vacciner. Faut pas oublier que le vaccin de Pfizer a été injecté au premier patient pour le tester en phase 3 il y a un an maintenant. Mais surtout, ça fait 20 ans qu'on sait qu'un jour on aura une campagne de vaccination nationale à entreprendre. Je n'ai pas d'explication, je suis comme vous, dépité qu'il en soit ainsi.
Merci beaucoup, professeur L'Apostole, professeur de médecine d'urgence à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Verdict sur Twitter, le grand débat des vraies voix. AstraZeneca, pas de confinement, le gouvernement prend-il les bonnes décisions? Eh bien, vous êtes 81% à dire non. Dans quelques instants, on va retrouver Jean-Marie Bordry pour le clin d'œil des VV et on va partir à la pêche. Mais vous restez avec nous.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Adrienne Breton, c'est Philippe Deveul. Mais tout de suite, on retrouve Jean-Marie Bordry pour le clin d'œil des vraies voix.
Chers amis, qui est allé à la pêche déjà une fois dans sa vie? Philippe David?
Moi, une fois.
Vous aviez pêché quoi, Philippe Bilger?
Des truites qui en avaient tellement que j'ai pêché victorieusement.
Victorieusement, vous aussi, Adrienne ?
Pêche sous-marine, moi.
Pêche sous-marine,
ah oui.
Formidable.
Oh là !
Pêche à l'espadon.
Pêche à l'espadon.
Ah oui.
Eh bien,
ah oui.
Moi, c'était dans un étang, effectivement, une énorme carpe. Mais c'est Philippe Bilger qui a raison ce soir, parce qu'il a pêché des truites. Et demain, à 8h, dans tout le pays, c'est l'ouverture de la saison de la pêche à la truite. Bonsoir à vous, Patrice Colombier.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes le président de l'association Merci. Agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique, la APPMA. Il y en a partout en France. Hein. Vous êtes à l'Abastide du Temple, c'est dans le Tarn-et-Garonne. Pas de confinement, restrictions sanitaires, protocoles, mais demain, vous irez à la pêche. Hein.
Voilà, oui. À partir de demain, donc dès 6h du matin, les gens pourront venir sur notre lac. Mmh. Alors nous, on est en plaine, hein, on n'a pas de ruisseau truite, hein, première catégorie. Mmh. Donc on a un lac agréé pour lâcher des truites avec la fédération. Mmh. Donc bien sûr, c'est pas un lac excessivement grand, donc on vient de mettre en place un protocole sanitaire avec des pancartes tous les 4 mètres à peu près pour qu'il y ait les distanciations prévues par la fédération. On a laissé des endroits exprès pour les familles qui viennent, donc grands-parents essentiellement avec les enfants. Voilà, un endroit pour ceux qui veulent bien sûr aussi casser la croûte, parce que c'est quand même l'ouverture de la pêche, c'est un endroit convivial, donc on a un petit pré juste à côté avec deux tables où s'ils veulent aller manger,
comme ça il y aura tout ce qu'il faut. Ça, voilà, c'était pour la logistique, voilà, pour les restrictions. Voilà. Parlez-moi maintenant de votre passion, parce que j'imagine que c'est une passion, voilà, du plaisir, notamment vous attendiez ça, on est d'accord?
Voilà, oui, bien sûr. Bon, la pêche, c'est un rendez-vous entre amis. Donc, pour l'ouverture de la truite, pour nous, bon, c'est plutôt un lac. Hein. On n'a pas forcément le temps de venir à la montagne. On est quand même à 2 heures des Pyrénées.
Ouais.
Mais c'est toujours agréable de passer un bon moment pour l'ouverture de la truite. C'est quand même un poisson qui est agréable à pêcher, assez bon à manger aussi, il faut dire, hein, des meilleurs. Moi,
vous allez nous donner une recette à la fin de cette interview, en tout cas votre recette préférée, vous me le direz, j'imagine que vous en avez plusieurs. Qu'est-ce qu'il faut, tiens, justement, pour moi je ne suis pas pêcheur, je suis adhérent à rien du tout, je n'ai pas de matériel. Si jamais demain je voulais aller pêcher, est-ce que c'est possible ou il faut s'inscrire?
Ah oui, non, mais vous pouvez prendre votre carte en ligne sur cartedepêche.fr, dans le département ou la commune que vous voulez, celle de votre village si c'est une société de pêche, hein, un APPMA, ou alors ailleurs, hein, vous avez une carte qui vaut entre 70 euros quand c'est que sur le département, ou 100 euros si vous la prenez sur tout le territoire. Pour la carte de disons truite, c'est plus le territoire entier. Hein. Voilà. Et puis, c'est en 5 minutes, c'est fait, c'est très facile. Et puis après, eh ben, il faut une canne, il faut des verres.
Exactement.
Et voilà, tout simplement.
Et puis, tout
si vous
simplement.
En attrapez, vous en attrapez, et si vous en attrapez pas,
eh ben, c'est pas grave, ce sera pour le plaisir.
Une bonne journée.
On en arrive au plaisir, justement, votre recette préférée pour la truite.
Alors moi, les truites, c'est pas compliqué quand je les attrape, mais je me les fais au barbecue avec juste du citron, des herbes de Provence, en papillote, on va dire, du papier alu, puis voilà, et puis ça seulement quand vous ouvrez, il y a le parfum de la truite qui est très agréable.
Eh ben, je crois que tout le monde adopte autour de cette table votre recette. Hein,
ça
je crois que tout le monde valide.
Ouais, très facile à manger en plus comme ça.
Exactement. Bah, écoutez, on vous souhaite une excellente saison de la pêche, j'allais dire la chasse, de la pêche à la truite, pour le coup, qui commence demain, 8h du matin, dans toute la France, même si vous serez sur le front, évidemment, à partir de 6h. Passez une bonne nuit.
Ouais, mais voilà, parce que l'ouverture à truite, c'est à 7h moins le quart. Hein, en fonction du soleil. Donc,
en fonction du soleil, voilà. Pardonnez-moi. Mais dans ce cas-là, voilà, vous me l'avez précisé, on peut être encore plus pressé. Passez une bonne nuit et passez une excellente saison de la pêche à la truite. Merci à vous, Patrice Colombier, président de l'APPMA de la Bastide du Temple. C'est dans le Tarn-et-Garonne.
Merci beaucoup, les vrais voix. À 18h54, on se retrouve dans quelques instants.
Le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien, présent.
Sud Radio, Osez Investir.
Bernard Cadeau, vous êtes le consultant logement d'Osez Investir et vous nous emmenez cette semaine à Bandol, ville du Var, dotée de 8400 habitants.
Oui Thomas, nous recevons Kim Sauzet, responsable de l'agence Orpi Paris Maire à Bandol.
Bonjour Kim Sauzet.
Comment se porte le marché immobilier à Bandol?
Eh bien à Bandol, comme dans toutes les autres villes de France actuellement, la demande est largement supérieure à l'offre depuis le début de l'année, que ce soit à la location ou à la vente. Les biens se font très rares. Même pour des appartements de type studio ou de pièces pour lesquels les acheteurs avaient largement le choix il y a encore quelques mois.
Et alors, qui pousse la porte de votre agence en temps normal?
Nous sommes sur un marché essentiellement de résidences secondaires. Les Parisiens et les Lyonnais investissent pour leur retraite. Et les jeunes actifs de 25-45 ans, eux, investissent et rentabilisent leurs biens en le mettant à la location.
Et quelle est la tendance sur les prix dans votre ville?
À Bandol, les maisons se vendent entre 4 000 et 6 000 euros du mètre carré. Les appartements entre 5 et 7 000 euros, ça peut monter jusqu'à 10 000. Mais les appartements ont toujours été plus chers au ratio prix mètre carré par rapport aux maisons.
Avez-vous un ultime conseil à donner à nos auditeurs qui voudraient investir dans votre ville?
Bien sûr, de continuer à investir dans l'immobilier qui est une valeur sûre, mais surtout de choisir à qui ils font confiance. Parce que bien acheter et bien vendre, c'est avant tout avoir été bien accompagné et bien conseillé par un vrai professionnel digne de ce nom.
Merci Kim Sauzet d'être passé du côté d'Oser Investir. Je rappelle que vous êtes la responsable de l'agence Orpi Paris Mer à Bandol. Quant à vous Bernard, je vous dis à la semaine prochaine pour mettre une nouvelle ville à l'honneur.
Sud Radio Oser Investir.
Avec le réseau immobilier Orpi, des femmes et des hommes pour votre bien.
Merci à vous les vraies voix, merci Philippe Bilger, Adrienne Breton, Philippe Deveul, tout de suite Jean-Marie Bordry. Les vraies voix qui font bouger la France, ça roule avec vous et Pierre Chasseret, quel est le menu?
C'est le pas menu de la ce soir, on va parler de l'état de nos routes d'abord, vous avez peut-être croisé quelques poules, quelques routes dont le marquage est un petit peu effacé. Ce sera notre premier sujet avec Pierre Chasseret. Et puis tiens, est-ce que vous êtes poli au volant vous?
Ah oui.
Ouais, ah sûr oui. Tout le monde le dit, pourtant tout le monde ne l'est pas.
Oui.
On révélera justement sur Sud Radio avec Pierre Chasseret une étude sur le comportement des usagers de la route, routiers, automobilistes, cyclistes et aussi piétons d'ailleurs. On peut avoir quelques surprises, vous verrez ça entre 19h et 20h sur Sud Radio.
Avec vous et Pierre Chasseret.